Et là-dessus, on s'en va joindre Michel Poitvin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Première chronique de 2025. Vous avez passé un beau temps des fêtes?
Deuxième, en fait.
Hein, on était là la semaine passée? Ben oui!
Ben oui!
Aïe, 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 la fille est mêlée. Alors, c'est vrai, je ne vous souhaiterai pas bonne année d'abord.
Bon, on peut se souhaiter pareil, ouais. On va être encore meilleur.
Mais je vous avais-tu demandé, je posais la question à propos de votre temps des fêtes, oui, hein?
Probablement.
Probablement. Ça a été bon? Ça a été bien?
Ça a été bien.
Oui.
Quelques petites rencontres en famille, puis un peu de repos.
Oui. Et puis, je sens la petite gorge un peu enrouée, ça se peut-tu?
Oui, ça, c'est un gros rhume d'homme, comme on dit.
Ah oui, ça, ce sont les pires.
C'est épouvantable.
Oui, mais quand on se compare, on se console.
Exact.
Tout ça pour vous parler de Los Angeles, qui est ravagé par des incendies. Il y a sûrement des conséquences économiques à cette tragédie.
Ben oui, là, c'est vraiment une véritable catastrophe. On évalue que les dommages vont être autour de 50 milliards américains. Il y a une dizaine de morts et puis c'est pas fini. Là. On n'annonce pas de pluie pour un bout, puis les vents, on sait que c'est causé en partie par des vents forts qui arrivent de l'intérieur des terres, puis c'est sec et chaud. Puis apparemment, les vents ne cessent pas ou ne faiblissent pas. Alors, c'est pas...
pas encourageant.
On va continuer d'entendre parler. Puis cette catastrophe-là, bon, évidemment, les feux comme ça, c'est un risque là, quand on est un propriétaire immobilier. Puis apparemment, c'était quand même bien connu par plusieurs. Et puis on peut se poser la question, mais que font les assureurs? Parce que quand on vit comme dans une région à risque, bien, ça prend de l'assurance. Et comment se comportaient les assureurs? Mais pour vous donner une petite idée, là, c'était de moins en moins facile de s'assurer. En 2022, Allstate, la compagnie Allstate, qui était quatrième assureur en Californie, s'est retirée complètement de l'État à cause des risques accrus. Et puis en mars 24, donc il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an, State Farm, un autre assureur important, a annulé 30 000 polices, dont 1 600 dans Palisades, là, Palisades. Là,
Pacific Palisades.
C'est ça, un des quartiers qui a été vraiment ravagé, puis où c'était des demeures pas mal luxueuses.
Prestigieuses.
Aussi. Exact. Et puis là, on peut se demander, ben pourquoi pas simplement augmenter le prix de la police, là, même si ça coûtait 50 000 par année. Donc, quand il y a un risque, tu évalues le risque, puis tu donnes le prix, puis là, les propriétaires décideront s'ils veulent prendre la police ou pas, puis les assureurs ont préféré se retirer. Mais l'explication de là se trouve dans une loi de 88, qui visait à contenir le prix de l'assurance. On trouvait, donc 88 sur un bout de temps, puis on trouvait que les assurances augmentaient trop. Alors, il y a eu une espèce de, on appelle ça un référendum ou un ballot, là. Et puis, on avait voté pour une façon de contenir le prix de l'assurance. On disait que les compagnies devaient évaluer les risques sur une base historique et non pas sur un risque sur la base de modèles qui prédisent les risques futurs. Mm-hmm. Alors, la base historique, c'est correct, c'est rien change dans le monde. Le passé est garant de l'avenir. Mais dans un monde où les conditions climatiques changent puis les risques augmentent, c'était pas une bonne façon. Oui, ça limitait le prix de l'assurance, mais en même temps, si le prix ne reflète pas les véritables risques, ce que les compagnies ont commencé à faire, c'est se retirer tout simplement de l'État, dire au prix qu'on peut charger, c'est impossible d'assurer les gens. Donc, une politique qui visait, qui avait semblé avoir un objectif louable, on ne voulait pas que le prix de l'assurance augmente beaucoup, mais finalement, des conséquences néfastes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient sans assurance, là, notamment dans les dernières années.
Alors, Michel, qu'est-ce que les propriétaires sans assurance font ou vont faire?
Bien, c'est ça. Il y en a plusieurs qui sont retournés vers une entreprise à but non lucratif qui s'appelle FAIR, F-A-I-R, qui assurait les gens, mais sous la base des vrais risques. Mais la couverture allait jusqu'à 3 millions. Bon, 3 millions pour la plupart des gens, c'est correct. Mais par exemple, comme on le disait dans Pacific Palisades, le prix des propriétés pouvait se vendre 4 millions et plus. Alors 3 millions, c'est pas une assurance complète, mais c'est certainement mieux que rien.
Mm-hmm.
Mais là, heureusement, le 2 janvier, donc c'est tout récent, l'État de la Californie permet à nouveau d'évaluer correctement les risques, donc avoir des modèles de risque pour les compagnies d'assurance. Est-ce que ça va les réattirer en Californie? Il faudrait voir. Mais c'est sûr qu'une bonne tarification des risques, c'est la meilleure façon d'influencer le choix de localisation des propriétaires. Là. Si tu vis dans une région à risque, c'est ton choix. Plusieurs des maisons détruites étaient dans de super beaux quartiers. Il y avait des montagnes ou vues sur la mer et tout. Donc, on peut penser que c'est agréable de vivre là. Mais là, s'il y a des risques, si tu es prêt à supporter le coût des risques ou le coût de l'assurance, mais c'est ton choix puis c'est correct. Mais pour ça, il faut vraiment que le risque soit tarifé de la bonne façon. Alors, donc, là, on pense que ça va améliorer, mais on verra à terme ce qui va se passer, parce que là, vraiment, les risques se semblent très élevés. Je regardais des chiffres, on comparait à différentes années les coûts en dommages des incendies là, pour différentes années, puis la plupart des années, à cette période-ci de l'année, il n'y en a presque pas d'incendies. Puis 2025, jure vraiment par rapport aux autres années, là, oui. Ça explose en flèche, alors qu'avant, il n'y avait à peu près rien à ce temps-ci de l'année. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le reste de l'année? On ne leur souhaite pas, là, mais ça pourrait ne pas être beau.
On ne parle plus de saison d'incendie, mais d'année des incendies.
Bien, c'est ça. Et puis là, on peut faire un petit parallèle avec chez nous, avec les zones inondables. Là, ça a souvent fait les manchettes. Puis ce qui arrive, c'est que les gens, peut-être, ils ont de la misère à se trouver de l'assurance. Puis quand c'est inondé, souvent, on se retourne vers le gouvernement pour être compensé. L'économiste, en moi, me dit, ben, c'est peut-être pas la bonne façon. Là. Si les gens veulent vivre sur le bord d'une rivière, c'est le fun d'être sur le bord d'une rivière ou un cours d'eau, puis en bénéficier. Mais en même temps, si on veut aller là, ben, il faut supporter le coût, le risque d'aller vivre là. Ça vient tout ensemble.
Oui, ça demande une réflexion avant d'aller de l'avant. Et autre sujet, en terminant, au sud de la frontière, vous nous parlez du tarif de congestion dans Manhattan qui fait pas l'affaire de la plupart des gens, là.
Oui, mais c'est assez intéressant. Là. Donc, le 5 janvier, on a introduit une tarification à la congestion de 9 $ pour accéder à Manhattan. Donc, ça touchait les ponts et les tunnels qui y menaient également. C'est un peu à l'image de Londres et Stockholm. On avait des tarifs spéciaux pour les taxis puis les citoyens à faible revenu. Et puis, les revenus de ce tarif-là sont versés dans un fonds pour l'amélioration du transport en commun. Moi, je trouve que ça semble, c'est comme je pense, une bonne politique. Si on regarde à Londres, lorsqu'on a introduit pour le centre-ville de Londres une tarification semblable, on a juste une baisse de 18% de la congestion. Et puis là, ben, qu'est-ce qui va se passer à New York? On espère une réduction entre 10 et 20% de la congestion. Il y a déjà des étudiants de Northwestern, l'université Northwestern, qui est en banlieue de Chicago, qui ont décidé de mesurer à l'aide de Google Maps les temps de certains trajets, donc notamment un tunnel et un pont qui mènent à Manhattan. Et puis, ils ont vu dans les premiers jours suivant l'introduction du tarif, une réduction de 50% des temps de passage. Ah, c'est énorme.
Ben oui.
Donc, c'est préliminaire, mais c'est encourageant. Puis quand vous disiez que ce n'est pas populaire, je pourrais vous faire part de l'expérience de Stockholm. Ça m'avait marqué à l'époque. Mm-hmm. En 2006, bon, Stockholm, pour ceux qui connaissent un peu la ville, c'est une ville qui est bâtie, puis il y a énormément de cours d'eau, puis de lacs autour, puis il y a presque une quantité infinie de ponts là, un peu partout dans la ville, notamment qui mènent au centre-ville. Donc, il faut prendre des ponts, puis on sait, bon, l'expérience de Montréal, quand il y a des ponts, ben, ça attire la congestion parce qu'on est limité dans le nombre de voies qui mènent à notre destination. Donc, en 2006, on avait fait une étude où on a introduit une tarification. Puis les Suédois, je trouve, ont bien fait les choses. Ils ont dit, parfait, on va faire notre tarif pendant un an. Puis la plupart des gens étaient contre au début. Puis ils disaient, on va le mettre un an, ensuite, on va faire un référendum. Et puis, vous voterez, voir si vous voulez le garder ou pas.
On a démocratisé l'affaire.
Puis, peut-être à la surprise de plusieurs, les gens étaient contre avant, mais après un an, ils se sont rendus compte, ah, c'est pas si mal ce tarif-là. Là. C'est pas mal plus facile de circuler. Il y en a qui ont pris le transport en commun. Et finalement, le référendum a passé. Et puis, on a gardé le tarif qui est encore en place à ce jour. Puis, on voit qu'il y a eu une réduction d'à peu près de 20% de la congestion.
Ouais, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, donc ça valait le coup.
Non, exactement. Des fois, quand on a des prix, il faut encore payer, on chiale, mais
Oui, sur le coup, hein, une réaction spontanée.
La gratuité, ça a des coûts cachés là, en termes de temps perdu et tout.
Il n'y a rien de gratuit.
Donc, c'est ça, j'avais un ancien collègue là, qui est décédé, le professeur Montmarquette, que j'appréciais beaucoup.
Ouais.
Puis il disait toujours, il n'y a rien de plus cher que la gratuité. Et effectivement, on le voit souvent.
Il n'y a rien de plus cher que la gratuité. On tient ça.
Effectivement.
Alors, un grand merci, Michel. On se retrouve la semaine prochaine pour votre troisième chronique de 2025.
Troisième chronique de l'année.
Au plaisir.
À bientôt. Au revoir.